Vous écoutez, on lit pour vous.
Visible ou pas, comment notre cerveau trie les stimuli? Un texte d'Annie Labrecque, paru le 12 juin 2023 dans le magazine Québec Science. Des scientifiques revisitent une expérience célèbre sur l'attention visuelle pour en tirer de nouvelles conclusions. La vidéo commence avec cette simple requête. Comptez le nombre de fois où les joueurs habillés en blanc s'échangent le ballon de basketball. Attentif au mouvement du ballon, il est possible qu'on n'aperçoive pas la personne déguisée en gorille qui s'est faufilée parmi les joueurs. Cette expérience, réalisée par des scientifiques de l'Université Harvard en 1999, démontre que l'humain possède une attention sélective. Lorsqu'on se concentre sur une tâche spécifique, on ignore souvent les autres éléments aux alentours. Cette expérience a été si marquante dans le domaine de la psychologie cognitive qu'elle se retrouve dans les manuels universitaires. Des chercheurs en psychologie de l'Université de New York ont revisité cette expérience célèbre pour en tirer de nouvelles conclusions publiées récemment dans PNAS. L'équipe a fait appel à des milliers de participants et participantes sur la plateforme Amazon Mechanical Turk en ajustant la méthodologie. Premier défi, exclure ceux et celles qui avaient déjà vu l'expérience originale sur YouTube, précise Pascal Wallisch, auteur principal de l'étude et psychologue spécialisé en neurosciences cognitives de l'attention visuelle. Les scientifiques ont testé différents scénarios. Ils ont entre autres modifié la vitesse à laquelle le gorille traverse le groupe, tantôt lentement, tantôt vite. Ils ont ainsi remarqué que lorsque le gorille bouge rapidement, l'attention est vite portée sur cet élément inattendu. En revanche, lorsqu'il se déplace lentement, comme dans l'expérience originale, le cerveau n'y prête pas attention, concentré qu'il est à compter le nombre de passes. Les quatre chercheurs de la NYU ne se sont pas arrêtés là. Dans une autre partie de l'expérience, ils ont demandé à leurs cobayes de compter le nombre de carrés qui traversaient une ligne dans une vidéo. Encore une fois, un objet inattendu, un triangle, apparaissait à un moment précis à l'écran. Est-ce que le triangle est passé inaperçu? Comme dans l'expérience avec le gorille, cela dépendait de la vitesse de déplacement du triangle. Questionné par Québec Science sur les objectifs poursuivis par cette expérience, Pascal Wallisch indique avoir voulu la revisiter après avoir constaté que la variation de la vitesse de l'objet inattendu n'avait pas été testée. En psychologie cognitive, il y a cette idée sur l'attention qui n'a aucun sens selon moi, où l'on dit que les gens sont incapables de percevoir un changement, même s'il est devant eux et même s'ils savent qu'il est en train de se produire. L'objectif de notre recherche était de déterminer si cela était vrai, dit Pascal Wallisch. D'après lui, les résultats sont très clairs sur ce point. Plus le mouvement est rapide, mieux il est perceptible. Les auteurs soulignent qu'une partie du cerveau des primates est dédiée à la détection du mouvement. Dans la nature, le mouvement rapide peut provenir d'un prédateur, d'une proie ou d'un congénère. Lorsqu'on pense à la vision, on l'associe souvent à des couleurs ou des visages, par exemple. On ne pense pas nécessairement au mouvement. La plupart des animaux ne voient pas la couleur. S'ils aperçoivent quelque chose, c'est le mouvement qu'ils voient. Une grande partie de leur cerveau est ainsi consacrée à la perception du mouvement, qui est détecteur de formes de vie, explique Pascal Wallisch. Bref, notre cerveau serait beaucoup plus compétent que ce que pouvait laisser croire l'expérience de 1999. Le chercheur Pascal Wallisch souligne que son étude pourrait avoir des implications dans divers domaines. Par exemple, les illusionnistes utilisent inconsciemment cette tactique de vitesse pour diriger l'attention du public vers une main plutôt que l'autre, qui est en train de faire une manipulation magique. Dans le domaine aéronautique, le tableau de bord d'un avion est illuminé de toutes parts. En faisant bouger rapidement un élément, on pourrait capter l'attention des pilotes lors de manœuvres critiques. À la suite de cette étude, le chercheur du NYU envisage d'explorer les mécanismes d'attention chez les personnes qui souffrent d'un TDAH. Ce n'est qu'une hypothèse, mais les individus ayant un trouble du déficit de l'attention seraient peut-être plus facilement distraits par des mouvements lents que ceux qui n'ont pas de TDAH, suppose-t-il. C'était « Visible ou pas, comment notre cerveau trie les stimuli ?» un texte d'Annie Labrecque, paru le 12 juin 2023 dans le magazine Québec Science.
Se nourrir selon son âge, à chacun ses mosts. Un texte d'Isabelle Huteau, paru dans le magazine Bel Âge. Pour optimiser notre santé et notre niveau d'énergie, on privilégie certains aliments selon notre groupe d'âge. 50-59 ans. Si l'arrêt complet des menstruations survient généralement vers 52 ans, bon nombre de femmes ont des symptômes bien avant. Bouffées de chaleur, gain de poids abdominal, insomnie, irritabilité sont le lot de plusieurs. La priorité nutritionnelle, alléger les symptômes de la ménopause en misant sur le soya, edamame, tofu, miso, tempeh, PVT, et la graine de lin, de précieuses sources de phytoestrogènes. Également, en diminuant sa consommation de sucre et en augmentant son niveau d'activité physique afin de ralentir la prise de poids. Chez l'homme, la prévention du cancer de la prostate est un objectif majeur. Parmi les recommandations, réduire son apport en viande rouge et en charcuterie pour faire place aux protéines végétales, dont le soya, et aux poissons, quelques fois par semaine. Diminuer aussi l'apport en gras saturés. Manger des sources de lycopène chaque jour, tomates et dérivés, melons d'eau, ainsi que des sources de sélénium, noix du Brésil. 60 à 70 ans. Tant chez l'homme que la femme, le métabolisme ralenti et la fatigue est plus au rendez-vous. La priorité nutritionnelle. Diminuer légèrement ses apports énergétiques et miser sur des aliments nutritifs pour combler ses besoins quotidiens, notamment en calcium, lait, fromage, yogourt, boissons végétales enrichies, et en vitamine D, un supplément de 400 000 UI est requis, nutriments clés pour la santé osseuse. 71 ans et plus. Peu importe le sexe, le défi à cet âge est que la faim n'est pas souvent de la partie. La priorité nutritionnelle, combler ses besoins en protéines. Une soupe poulet inouï du commerce n'est pas suffisante. Mieux vaut viser 1,2 à 1,5 g de protéines par kilogramme de poids, soit environ 15 à 20 g de protéines le midi et le soir. Par exemple, 75 à 100 g de viande, de volaille ou de poisson, 2 ou 3 œufs, 3 quarts de tasse de fromage cottage, 1 à 1 tasse et demie de légumineuses ou 100 à 150 g de tofu permettent déjà d'atteindre les objectifs par repas. Le système immunitaire étant également fragilisé, on s'assure de combler nos besoins en vitamine D, zinc, vitamine A et C. C'était « Se nourrir selon son âge, à chacun ses mosts », un texte d'Isabelle Huteau paru dans le magazine Bel Âge.
Un nouveau chapitre pour le théâtre du Nouveau Monde. Un texte de Pierre McDuff paru le 9 avril 2024 dans Le Devoir. La direction artistique du Théâtre du Nouveau Monde, TNM, sera bientôt confiée à une nouvelle personne, en succession à celle que Lorraine Pintal a menée avec détermination depuis plus de 3 décennies, oscillant entre audace et prudence. On doit à la directrice sortante d'avoir permis une première transformation de ce lieu centenaire, en 1997, ce qui aura notamment rendu possible le développement de langages scéniques plus affirmés, décors, lumières, sons. Au terme d'une seconde rénovation, toujours en cours, Ce théâtre de 800 places comptera une seconde scène intimiste, la salle Régente du Charme, au moment où la compagnie fêtera ses 75 ans. Ce contexte est propice à une réflexion sur la place du TNM dans le paysage théâtral. Dans le public ou parmi les médias, plusieurs lui reconnaissent un statut d'institution. Pourtant, rien ne le distingue sur le plan légal des autres compagnies qui produisent en saison. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif dont est ultimement responsable un conseil d'administration. C'est peut-être davantage au regard de son parcours depuis une époque lointaine n'ayant plus grand-chose à voir avec l'actuel, mais où tout était à faire avec des moyens familiques et de la noblesse des ambitions qui ont présidé à sa fondation, à l'ère dupléciste, que l'on peut ressentir ce sentiment d'appartenance du TNM à l'égard de la collectivité. Dès sa première saison, avant la mise en onde de la télévision de Radio-Canada, le TNM annonçait son intention de pérenniser la compagnie par une troupe et de créer une école de théâtre puisqu'il n'en existait alors aucune. Il l'a tenue de 1952 à 1956. De doter la compagnie d'un lieu, de favoriser l'accès à ses activités au plus grand nombre et permettre l'émergence d'un théâtre canadien, tel qu'on désignait alors la réalité québécoise. Les tournées au pays ainsi qu'à l'étranger étaient souhaitées, bien qu'estimées improbables vu l'obligation faite aux interprètes de gagner leur vie à la radio puis à la télévision. Dès les tout débuts, le TNM a traduit ses intentions et ses prises de position par des textes qu'on retrouvait à l'intérieur des programmes remis au public, puis par le biais de la publication « L'envers du décor ». Les gens de théâtre ont tenu une place importante au sein du conseil d'administration dès les premières années. De 1951 à 1992, les directions artistiques ont été exercées selon une durée de 10 à 16 ans, puis durant 3 décennies pour la dernière. Il serait sage de baliser d'emblée la durée du mandat de la prochaine, tout en laissant un temps raisonnable à son ou sa titulaire pour accomplir le projet qu'il ou elle proposera, cela afin d'assurer une plus grande fluidité générationnelle dans cette fonction, de contribuer à l'actualisation, voire au renouvellement de la mission de l'organisme et de faire place à de nouvelles sensibilités et à diverses familles artistiques. Cette recommandation peut s'appliquer à d'autres compagnies détentrices d'un lieu dans le délicat équilibrage à installer entre la fidélisation d'un public et le danger d'un engourdissement artistique. La nouvelle direction artistique du TNM s'exercera dans un environnement montréalais où ont émergé peu à peu de nombreux lieux dont plusieurs font une large place à la création. Centre du théâtre d'aujourd'hui, La Licorne, Théâtre Prospero, Salle Fred Barry, Aux Écuries, et où personne ne se sent tenu, sauf exception, d'interroger le répertoire québécois. Notre dramaturgie serait-elle vouée à l'oubli sitôt créée? Le TNM n'est-il pas un lieu propice pour faire le point sur l'évolution ou la non-évolution au sein de la société québécoise des problématiques en cause dans certaines pièces, ou encore se pencher sur les écritures qui nécessitent un plus long temps d'exploration, parce que moins convenu? La prochaine directrice ou le prochain directeur artistique devra soumettre un projet susceptible de se réaliser pleinement dans un horizon à moyen ou long terme, car il est peu probable qu'elle ou il ait, à court terme, les moyens de ses ambitions. La compagnie est propriétaire d'un bâtiment avec des charges croissantes liées à son exploitation et tant le personnel que les équipes artistiques s'attendent à une rétribution exemplaire. À l'instar d'autres compagnies auxquelles son fonctionnement l'apparente, les subventions constituent moins du tiers de ses revenus. C'est dire l'importance de la billetterie et des commandites. La diminution des budgets du Conseil des arts et des lettres du Québec ne permet guère d'espérer une augmentation de subventions de sa part, alors que le TNM doit dorénavant animer deux salles. Il ou elle héritera toutefois d'une compagnie dont les finances sont saines. L'institution théâtrale, soit l'ensemble des éléments qui constituent le paysage théâtral, a permis une diversification des pratiques et des publics. À cet égard, l'arrivée depuis quelques années de spectacles issus de producteurs privés à but lucratif dont les exigences artistiques reposent sur des finalités différentes change la donne et peut brouiller les frontières dans des partenariats de coproduction, a fortiori si leurs productions s'inscrivent dans la saison régulière du TNM. Le rôle de ce dernier ne devrait-il pas s'actualiser par le développement d'un public averti et exigeant, offrir selon une tarification accessible une programmation donnant accès aux œuvres du grand répertoire sans souligner à outrance leur travers ou dénaturer leur ancrage historique, mais en misant sur l'intelligence du public pour en faire résonner la teneur au présent? S'ouvrir à la dramaturgie étrangère contemporaine, absente de nos scènes, sauf pour des productions d'accès facile? Voir accueillir occasionnellement des productions étrangères de figures marquantes du théâtre contemporain et qui contribuent à la vitalisation de l'art, d'autant que cette voie n'est plus priorisée par le Festival Transamérique. Voilà des défis, dont certains apparemment contradictoires, qui constituent autant d'avenues à emprunter potentiellement pour une actualisation de la mission du Théâtre du Nouveau Monde à l'aube de son 75e anniversaire et de son repositionnement dans le paysage théâtral. C'était un nouveau chapitre pour le Théâtre du Nouveau Monde, un texte de Pierre McDuff paru le 9 avril 2024 dans Le Devoir.
La mémoire des plantes par Simon Joly, publié dans Quatre temps, printemps 2023. Tout comme les animaux ou les humains, les plantes ont de la mémoire. Parfois de courte durée, parfois très longue, elle est aussi étonnante qu'utile. Selon le dictionnaire Larousse, la mémoire est la capacité psychique d'enregistrer, de conserver et de se rappeler les expériences passées. Si on laisse de côté le caractère psychique de la définition, les plantes ont bel et bien de la mémoire, c'est-à-dire qu'elles peuvent enregistrer des informations provenant de leur environnement pour les utiliser plus tard au courant de leur vie. Des plantes à la mémoire courte. Saviez-vous que les plantes savent compter? Aucun rapport avec la mémoire, pensez-vous? Au contraire! Prenons le cas de la Dionée attrape-mouche, Dionea muchipula, une plante carnivore qui vit dans des milieux pauvres en nutriments. Elle possède des feuilles en forme de grandes mâchoires qui attrapent les proies. Les insectes sont digérés et les nutriments absorbés. Pour déclencher le piège, un insecte doit toucher exactement deux poils à la surface du piège, et ce, dans un intervalle de moins de 30 secondes. Si un seul poil est touché ou si deux poils sont touchés dans un intervalle de plus de 30 secondes, la feuille ne va pas se refermer. La plante a développé ce processus pour que les pièges ne se referment pas pour rien, comme lorsqu'une goutte d'eau tombe sur la feuille. La plante conserve donc bien une mémoire du premier événement, même si cette mémoire est en soi de courte durée. Mais où donc est emmagasinée cette information? Dans le cas de la Dionée, la mémoire est physiologique et localisée dans les cellules, plus précisément sous forme d'ions, calcium, des molécules chargées électriquement. Le mouvement du poil déclenche une série de réactions chimiques et physico-chimiques. Cela commence par une augmentation d'ions, calcium, dans la cellule à la base du poil. Ceci déclenche une cascade physiologique qui augmente la quantité d'ions calcium dans la cellule voisine et ainsi de suite, transmettant ainsi rapidement le signal électrique dans toute la feuille. À partir de ce moment, la feuille est en quelque sorte en état d'alerte. Un autre toucher de poil et l'augmentation d'ions calcium dans les cellules sera si importante qu'elle entraînera la fermeture de la feuille. Mais avec le temps, les concentrations d'ions reviennent à la normale, et si un deuxième poil est stimulé trop tard, après le premier, alors la variation d'ions ne sera plus suffisante pour déclencher la fermeture de la feuille. La mémoire du froid. Toute personne qui aime jardiner a certainement eu vent d'un autre type de mémoire des plantes, celle du froid. En effet, certaines espèces ont besoin d'un traitement au froid, ou vernalisation, avant de germer ou de fleurir. La graine ou la plante se rappelle donc ce passage obligé pour déclencher sa germination ou sa floraison. La logique est simple. Il serait dommageable pour ces plantes de germer ou de fleurir juste avant l'hiver. Pour éviter ce piège, elles doivent être soumises à des températures très froides qui surviennent seulement au milieu de l'hiver pour les rendre réceptives aux prochaines chaleurs qui surviendront à la saison chaude suivante lorsque les risques de gel auront disparu. Dans ce cas-ci, la mémoire fonctionne de façon bien différente. Plutôt que d'être basée sur des molécules chargées électriquement, comme on l'a vu plus haut, elle implique des modifications à la structure de l'ADN. Mais attention, on ne parle pas de mutation ici, mais de modification du niveau de compaction de l'ADN. En effet, l'ADN peut s'enrouler localement autour de protéines pour former des amas très denses, réduisant l'expression des gènes de ces régions compactées. C'est ce qu'on appelle des modifications épigénétique. Prenons l'exemple de la floraison de l'arabette des dames, Arabidopsis thaliana, qui est bien étudiée. Il faut savoir que la floraison, chez certaines variétés de cette plante, est par défaut réprimée grâce à un gène appelé FLC, dont l'expression dans la plante empêche sa floraison. Lorsque les plants sont placés au froid pendant une longue période, la compaction de l'ADN, où se trouve le gène FLC, sera accrue. Plus l'ADN est compacté dans les cellules, moins il est accessible par les protéines et moins les gènes présents dans ces régions sont exprimés. Une période de froid prolongée résultera donc en une suppression de l'expression du gène FLC. Et sans l'expression du gène FLC, la plante est libre de pouvoir fleurir au moment opportun. En résumé, sans traitement au froid, ces plantes ne fleuriraient jamais. On observe le même phénomène chez plusieurs espèces, comme la plupart des espèces bisannuelles, les bulbes ainsi que les arbres et arbustes des milieux tempérés. La durée de ce type de mémoire épigénique varie considérablement d'un cas à l'autre. Selon les connaissances actuelles, elle peut persister de quelques jours seulement à plusieurs années. Dans le cas de la vernalisation, la mémoire du froid se conserve jusqu'à 300 jours chez certaines espèces. Après cela, il faut une nouvelle période de froid pour permettre à la plante de fleurir. Il est aussi possible d'effacer cette mémoire. Ainsi, on peut dévernaliser des plantes en leur appliquant un traitement à la chaleur, de 25 à 35 degrés Celsius selon l'espèce, pendant quelques jours. Cette opération permet en quelque sorte d'effacer leur mémoire d'avoir vécu un épisode de froid et, en pratique, de retarder la floraison. C'est un processus notamment utilisé avec certaines variétés d'oignons, ce qui leur permet de grossir davantage sans fleurir après la plantation des bulbes. Mémoire transgénérationnelle. Dans certains cas, la mémoire des plantes pourrait même être transmise d'une génération à l'autre. et il n'est pas question d'hérédité ici. En général, les modifications épigénétiques survenues dans le génome au cours de la vie d'une plante sont réinitialisées lors de la formation des gamètes contenus dans le pollen et les ovules. On repart donc la machine à zéro. C'est le cas de la vernalisation. La mémoire des parents est effacée et les nouvelles plantules doivent connaître un nouvel épisode de froid prolongé avant de fleurir. Assez pratique, car sinon les plantes pourraient fleurir trop rapidement. Mais les plantes ne réinitialisent pas complètement les modifications épigénétiques de leur génome lors de la formation du pollen et des ovules, de sorte que certaines modifications peuvent être conservées et transmises par les graines. Il n'y a pas encore de cas bien documentés au niveau moléculaire, mais un exemple probable est celui de la transmission de la résistance aux pathogènes. Lorsque les plantes sont attaquées par des bactéries, par exemple, elles peuvent en effet développer une résistance dans toute la plante, appelée résistance systémique, qui augmente leur immunité aux attaques subséquentes. Cette réponse est causée par des modifications épigénétiques qui augmentent l'expression de plusieurs gènes de défense. Étonnamment, une étude récente a montré que cette mémoire peut être transmise sur deux générations chez l'arabette des dames. En gros, les petits-enfants d'une plante qui auraient été attaqués par une bactérie réagiront mieux que des plantes dont les ancêtres récents n'ont pas eu une telle expérience. Sans parler de mémoire d'éléphant, la science a donc prouvé que les plantes ont de la mémoire. Elle est juste bien différente de la nôtre ou de celle des animaux. Comme les plantes n'ont pas de cerveau, leur mémoire est conservée dans leurs cellules. Un peu comme si la plante était constituée de milliers de cerveaux. Encore plus fascinant, ces mini-cerveaux se divisent pour créer de nouvelles cellules lorsque la plante grandit et, dans certains cas, la mémoire peut être ainsi propagée dans les nouvelles parties de la plante. Bref, traitons nos plantes avec soin parce qu'elles le méritent et qu'elles peuvent avoir la mémoire longue. C'était « La mémoire des plantes » par Simon Joly, publié dans « Quatre temps », printemps 2023.